Prologue. Abbaye royale de Montmartre, 15 décembre 1226. Griffonnel se redressa dans un sursaut, le souffle rare et court, le corps moite, les yeux exorbités.
Foutu cauchemar,
jura-t-elle entre ses dents serrées avant de se laisser retomber sur la couche austère. Quand elle n'était hantée par l'image de sa mère, étendue rue Saint-Denis de la Chartre, c'était celle de Triboulet, gisant dans la travée centrale de la chapelle Saint-Michel, qui l'éveillait. Elle ne l'y avait abandonné que quelques minutes, pourtant. Le temps de traverser le souterrain qui reliait l'édifice à la chambre de Louis de Poissy, dans le palais royal de la cité. Elle tenta de réguler les battements désordonnés de son cœur, sur lequel tressautait ce médaillon qu'elle était allée y récupérer. Médaillon qui, correctement placé sur la couverture tissée par sa mère, constituait le point de départ d'une carte menant à la mine d'or des seigneurs de cabaret.
Un mois. Cela fera un mois aujourd'hui.
Elle emprisonna le bijou dans son poing. Rancœur et colère finissaient d'ordinaire par rabattre son chagrin, même si tout son être en demeurait imbibé. Elle attendit qu'elle balaie de ses narines l'odeur toujours vive du sang. Une tache, qu'elle avait vue s'élargir autour de son ami, tandis qu'elle courait vers lui, affolée, tandis qu'elle le retournait sur le dos et découvrait l'entaille profonde. Tandis qu'elle se confrontait à la sinistre réalité au travers des mots de Louis, penchés au-dessus d'eux. « C'est fini, Griffonnel. Il est mort. » En dépit de l'évidence, elle avait secoué le petit corps, priant pour que ce visage livide lui accorde une dernière grimace, un dernier regard de son œil unique. Mais sa nuque était restée molle, sa paupière fermée. Elle s'était effondrée sur lui en hurlant de rage et de douleur mêlées. Parce que l'histoire se répétait. Parce que Naloba avait frappé après avoir fait d'Altéric son complice. D'abord en convainquant le jouvenceau de vendre Mao à Amaury de Montfort, puis l'ayant libéré des geôles du palais, en se faisant conduire à Triboulet pour la récupérer.
« Tout, elle m'aura tout pris !»
avait-elle gémi en s'accrochant désespérément au nain, malgré cette plaie qui régurgitait, empoissant son visage, ses mains, ses vêtements. La paume de Louis s'était appesantie sur son épaule.
« En vengeant mon père, je le vengerai aussi. Tu as ma promesse, Griffonnel. »
Humbert de Beaujeu part à l'aube pour l'Occitanie. Il ravagera le comté toulousain s'il le faut. Naloba ne s'en tirera pas. Et Altéric non plus. Elle avait senti ses forces l'abandonner. Un vertige l'avait saisi alors que Louis affirmait encore « Je m'occupe de tout, Griffonnel. Et de toi aussi. »
Pour s'occuper de moi, sûr, il s'est occupé de moi.
Elle avait repris connaissance dans cette cellule, sous ce crucifix piqué au mur blanchi à la chaux, réveillée par les battements d'une cloche sonnant matine. Ahurie, elle s'était découverte lavée et revêtue d'une bure. Elle avait bondi sur la porte cintrée qui faisait face à sa couche, craignant d'être prisonnière. Elle s'était rassurée de pouvoir l'ouvrir. Las, cela n'avait pas duré. La minute suivante, elle croisait l'une des moniales, puis se retrouvait devant la mère supérieure, figure austère de l'abbaye royale de Montmartre où Louis l'avait déposée.
Le roi vous a confié à nous, ma chère enfant, dans l'attente.
L'attente de quoi ?
S'était liquéfié Griffonnel. Un sourire forcé avait traversé les traits sans grâce de l'abbesse.
L'attente du conseil de sa mère à votre sujet.
Dans un premier temps, elle s'était morfondue entre ses murs, coincée entre les tâches coutumières et les offices canoniaux, espérant que Louis en franchirait le portail et la rendrait au sien. Puis, ne voyant rien venir, elle avait tenté de fuir. Ce n'avait été qu'une fois bloquée par deux imposantes nonnes qu'elle avait compris que sa première idée était la bonne. Louis l'avait cloîtrée pour lui interdire de faire vengeance par elle-même ou de se prostituer. Consciente que le sommeil ne viendrait plus, elle se tourna sur le côté, faisant craquer les tréteaux épais qui soutenaient son lit.
Il n'était constitué que d'une planche recouverte d'un matelas de paille. Même à Glatigny, dans le Bordeaux de Gaïa, elle était installée plus confortablement.
Gaïa, Sibylle, Solène.
La maquerelle lui manquait. Les ribaudes lui manquaient. Le chahut des bâtards de la maisonnée lui manquait. Le vacarme ininterrompu de l'île de la Cité et du port lui manquait. Elle ne savait pas ce que Louis avait fait du corps de Triboulet. S'il l'avait rendu à leur famille, s'il reposait dans le petit cimetière de leur paroisse à Saint-Landry, près de leur mère respective. Elle ne savait pas non plus si Louis avait prévenu qu'elle était en sécurité. Là maintenant dans l'inconnu, il n'avait répondu à aucune de ses lettres. 4. Elle en avait écrit et remis 4 à la mère supérieure.
Les a-t-elle seulement transmises ?
Elle attarda son regard sur le fenestron grillagé, ouvert sur l'enclos de l'abbaye. Un ray de lune cherchait à percer l'obscurité de la pièce étroite et longue, sans parvenir à déligner autre chose qu'un rectangle de lumière blafarde au mur. Sous ce plafond bas, voûté, elle avait l'impression d'étouffer. Lors, malgré les frimas de cet hiver qui commençait, et au risque d'attraper la malmort, elle gardait la croisée ouverte. Elle dormait tout habillée, en resserrant autour d'elle les pans d'une couverture de laine grise, rugueuse. La sienne lui manquait aussi. Non pour ce qu'elle dissimulait dans ses fils, mais pour ses parfums d'hier qu'elle abritait. Plus que jamais, elle aurait eu besoin de s'y enrouler. Là, elle n'avait que son courage et sa rage intérieure à opposer à sa détresse et à sa précarité.
Si seulement ma porte n'était pas bouclée la nuit, se répéta-t-elle pour la énième fois.
Mais visiblement, Louis avait donné ses ordres. Elle logeait seule, enfermée jusqu'au réveil de la maisonnée. La cinquantaine de nonnes et de converses qui vivaient là se relayaient discrètement à sa surveillance, sans lui autoriser le moindre temps de vacuité, le moindre espoir d'escalader un mur. La journée finie, une autre commençait. Elle bâilla, épuisée de ne parvenir qu'à somnoler, mais ne put se résoudre à fermer les yeux.
Trop tôt.
Elle n'avait pas suffisamment trompé sa faiblesse. Elle savait que l'image du meurtre de sa mère, de celui de Triboulet, reviendrait. Elle s'obligea à fixer l'esquisse de la lune au travers de la croisée. Elle commençait à papillonner des paupières lorsqu'il lui sembla percevoir des pas dans le couloir voisin. Elle tourna la tête, avisa une lueur au ras du sol, sous sa porte. Alertée, elle se redressa sur un coude. À cette heure, l'abbaye était silencieuse et personne ne circulait. Elle reconnut pourtant le bruit de la tirette extérieure. Angoissée, ne sachant à quoi s'attendre, elle bondit, les poings serrés, prête à se défendre si besoin était. Mais le battant s'ouvrit franchement et elle reconnut Blanche de Castille dans l'éclairage de la lanterne qu'elle portait.
Relevez-vous,
la pria la reine, devant sa piètre révérence.
Je ne suis pas ici de manière formelle.
Je voulais voir par moi-même celle dont chaque jour mon fils me brosse le portrait.
Alors j'espère qu'il vous conviendra, Votre Majesté,
se troubla Griffonnelle. Blanche posa le falot sur un petit meuble qui faisait office de desserte de nuit, entre un hanap et un cruchon d'eau.
Je ne doutais pas de la joliesse de votre minois. C'est votre âme que je viens sonder, mon enfant.
Griffonnelle en conclut que c'était à la fille d'une cathare qu'elle s'adressait. Aussitôt, la rancœur qu'elle nourrissait envers Louis reflua dans ses veines. Elle s'efforça de la tempérer. Après tout, à défaut de son fils, la reine s'était déplacée. Ce n'était pas à sous-estimer. De ce qu'elle dirait dépendrait peut-être sa liberté.
Je suis une bonne catholique, crut-elle donc utile d'affirmer.
Certes, il n'en demeure pas moins que vous détenez un secret cathare de la plus haute importance pour le royaume. Sauriez-vous reproduire cette carte que vous avez eue si longtemps en votre possession ?